Les maudits sont sans importance. Les mots sont sans importance.
Bonjour, la diseuse de mots. Aujourd'hui, je vous lis un premier extrait du roman de Carole Martinez, Du domaine des murmures. Après le roman Cœur cousu, Carole Martinez nous offre un conte sensuel, encensé par la critique et les lecteurs. Elle y dessine l'inoubliable portrait d'une femme insoumise vivant à la lisière du songe. Je suis Esclarmonde, la sacrifiée, la colombe, la chair offerte à Dieu, sa part. J'étais belle? Tu n'imagines pas. Aussi belle qu'une fille peut l'être à 15 ans. Si belle et si fine que mon père, ne se lassant pas de me contempler, ne parvenait pas à se décider à me céder à un autre. J'avais hérité de ma mère une lumière sur la peau qui n'était pas commune. Derrière mon visage d'albâtre et mes yeux trop clairs, une flamme semblait vaciller, insaisissable. Mais les seigneurs voisins guettaient leur proie. J'étais l'unique fille et j'aurais belle dot. Parmi les vigoureux fils que Dieu avait offerts à mon père, parmi ses compagnons d'armes et leurs jeunes écuyers, j'étais oiseau et je chantais à toute heure. Je chantais dans le fracas des sabots et des armes, ce que pudeur m'interdisait de dire. Je résonnais comme une cloche de verre au centre du jardin clos où l'on me tenait au beau jour, cousu sur cette tapisserie mille fleurs au milieu des renoncules et des glaïeuls sauvages arrachés aux prairies du pays. Et ma voix montait dans leur parfum, ma voix montait vers Dieu, légère et claire, ma voix montait telle la fumée d'Abel. Tous parlaient au pays de cette jouvencelle, de ce doux ange si bien gardé au murmure, posé sur le frais gazon de son préau, et l'on disait qu'il suffisait pour gagner le château, planté au bord de sa falaise, de suivre par la forêt cette voix toujours vive, voix que seule la nuit semblait pouvoir éteindre. J'avais été dessinée, modelée par les paroles des hommes. Nous l'étions toutes alentour, nous l'étions toutes, mais mon père sans doute était meilleur sculpteur. Il avait oublié de me parler des défauts de mon sexe et avait chassé son chapelain qui ne savait se taire. Imagine comme on devait rêver de cette pucelle douce et sage, de ce chant de vierge qui guidait, du trésor qui m'était attaché, de cet enfant tant aimé par son père. Mais de mon désir, nul ne se souciait. Qui se serait égaré à questionner une jeune femme, fût-elle princesse, sur son vouloir? Parole de femme n'était alors que babillage. Désir de femme, dangereux caprice, à balayer d'un mot, d'un coup de verge. Mon père, pourtant, était doux pour moi parmi les gens de guerre. Il s'opposait juste obstinément à m'envoyer là où Dieu me réclamait. Il me refusait le couvent qui m'aurait arraché à lui plus sûrement qu'un mariage. C'était un petit seigneur, mais un grand chevalier. Il s'était taillé si belle réputation, tant au tournoi qu'au combat, que nombreux étaient les garçons qu'il avait dû former. Mes cousins maternels, les fils aînés de ses vassaux, quelques cadets des seigneurs plus puissants. Notre monde débordait de chevaux, de chiens et de jeunes gens parlant haut, buvant, chassant et me suivant du bout des yeux. De tous ceux qu'il avait accueillis au logis, mon père en avait aimé un davantage. Lothaire, le benjamin du seigneur de Montfaucon. Ce puissant voisin lui avait confié son garçon à 8 ans, avant de l'armer lui-même. Après son adoubement, Lothaire avait couru les tournois, se jetant dans les mêlées avec violence et enthousiasme, ne craignant ni ses adversaires, ni les démons qu'on voyait parfois volter au-dessus des champs et des lys, et emporter les âmes des trépassés, car qui mourait dans ces combats, alors interdits par l'Église, n'avait pas droit à une sépulture chrétienne. Deux belles saisons, il avait circulé de terre en terre en quête de prestige, revendant armes et destriers, gagnés lors de ses affrontements, pour fêter dignement ses exploits, menant grand train, courtisé par de très importants personnages, désireux de le compter dans leur conroi. Deux belles saisons, il avait été honoré, avant de tourner bride et de rentrer au pays. Il revenait vers moi, tout auréolé de victoire, mais à mes yeux, son visage avait gardé ses rondeurs, et je ne voyais en lui qu'un enfant capricieux, à l'habit de métal, formé à tuer, toujours en côte et à cheval, et n'en descendant que pour trousser les vilaines dès que l'envie lui en prenait. Je savais son inconduite. Les filles des serfs qui venaient en corvée filer et tisser au château me contaient sa violence. De tous, celui-là, aux beaux yeux d'ardoise, était le plus avare en caresses, celui qui aimait à piller, disait-elle. Ne demandant jamais rien et n'attendant pas même un regard qui aurait proposé, il jouait avec son vie comme avec la pointe d'une épée. Et les filles perdues se taisaient, pour éviter l'ignominie et ne pas être jetées sur les routes. Mon temps aimait les vierges. Je savais ce qu'il me fallait protéger, mon vrai trésor, l'honneur de mon père, ce sceau intact censé m'ouvrir le royaume céleste. Et c'était cet homme-là, ce Lothaire de Montfaucon, qui, le convoitant, m'entraînait dans le jeu courtois. Tentant de civiliser son désir, un genou à terre, il m'implorait de lui accorder un baiser. Toutes ces histoires de braves chevaliers aux ordres de leurs dames ne m'intéressaient pas. D'autres guettaient sans doute les troubadours, d'autres se délectaient des chants d'amour, de cette capitulation de la dame après un long siège, se demandant, anxieuse, si le champion prendrait sa mie. Moi, j'avais cessé de trembler pour ces jeunes gens en armes. J'avais compris que la belle succombait toujours dans ses contes bleus, que le chevalier gagnait toutes ses batailles. Comment douter de sa puissance? La lutte, ô combien inégale, était perdue d'avance. La dame se devait d'accepter les hommages. Elle mettait à l'épreuve, et les obstacles passés s'offrait en récompense à celui qui avait su être patient et ne s'était pas contenté de délasser sa culotte. Ses récits étaient chantés pour lui, seul véritable héros de la fine amour. Raffinement des hommes violents, pour lesquels prendre était sans doute devenu jeu trop aisé. Moi, jamais je n'aurais voulu de ce garçon-là. J'éprouvais du dégoût pour celui qui, s'il est en dedans, me jouait les gracieux. Et je n'acceptais pas l'idée de changer de main. Mais voilà que, mon père ayant cédé, on nous avait fait monter tous deux sur un beau coffre de mariage où Lothaire avait pris dans sa main large cette petite main tremblante qu'on lui tendait, la mienne. Nous étions désormais promis l'un à l'autre, et mon fiancé me faisait sa cour à la mode du siècle. Il s'aimait passionnément dans ce rôle nouveau et difficile pour qui n'a jamais su attendre. Voilà qu'on exigeait de moi que je suive la règle, que je plie son désir le temps que dureraient les fiançailles, que je résiste vaillamment. Comme on me l'avait appris, je ne donnais ni regard ni parole quand, avec l'assentiment de mon père, il se rendait après la chasse dans la chambre des dames pour y conter ses exploits. Et mes oreilles, ô mes oreilles, étaient ouvertes malgré moi à l'affreux verbiage de celui qui bientôt serait mon maître et n'en pouvait douter. Le mariage n'était pas chose légère, pas de choix, pas même celui de Lothaire en fait. Le double consentement exigé par l'Église n'était que celui des familles. Mais mon galant y gagnait tant. Benjamin, en sa grande maison, il n'avait que peu de chances d'échapper au célibat et à l'errance du paladin. Les premiers-nés avaient eu leur part. Les noms des deux plus jeunes n'étaient pas destinés à passer à la postérité. Amet, de 5 ans son aîné, venant de manquer un beau parti, avait déjà renoncé à prendre femme. Restait Lothaire, gorgé de rage et d'ambition. Sa fougue et son habileté au tournoi lui avaient si bien permis de se distinguer que de l'avis de tous, même de mon père, son bon sang viril méritait de se perpétuer. Cette union était donc une aubaine. Une fois marié, il deviendrait seigneur à son tour. Sa femme, aussi frêle, docile et muette fut-elle, lui conférerait une nécessaire épaisseur, celle des bâtisseurs de lignées. Il restait des places à prendre dans ce comté de Bourgogne. Ma matrice le projetterait dans l'avenir. Il laboureraient ma chair comme il faut pour que sa gloire pût s'y enraciner, pour que sa descendance fût forêt, beau garçon, qui, prenant sa suite, porterait son nom, abriterait son sang, sa mémoire, sa gloire pour les siècles des siècles, sans compter la dot et l'alliance attachée à celle qu'on lui donnait jusqu'à ce que mort s'en suive. Je ne serais qu'un pudique récipient que les grossesses successives finiraient par emporter. Et même si Lothaire mourait avant moi, mon veuvage ne me protégerait pas. On m'abandonnerait de nouveau, au plus offrant, en gage de quelque pacte. Comment échapper à cette destinée, sinon avec l'aide du Christ ? Un matin de mai, j'ai été réveillée avant l'aube, longuement attournée, puis menée, raide de tissu et d'angoisse, jusqu'à Montfaucon. Somptueusement harnachés et couverts de grelots d'argent, les plus beaux chevaux des Murmures portaient ma litière et toute la ménie l'accompagnait. C'était grand défilé de montures, de bannières criardes et d'agaçants tintements, grande fête autour de ma petite personne. Sans doute tentait-on de m'épaissir en m'engonçant dans ce vacarme. Mon père, paradant sur son palefroy, exhibait son trésor pour la dernière fois. J'étais l'honneur de son sang. Le ciel gros de nuages grondait. Il en tombait une lumière presque jaune. Les fils de couleurs y gagnaient en étrangeté et le tonnerre roulait dans la vallée, déboulait derrière nous en écho, galopait sous mes côtes. Tandis que nous avancions, j'attendais que la pluie vînt balayer ma peur, mais l'orage restait sec et seuls les éclairs veinaient mon horizon d'ardoise. Les nuées ont craqué d'un coup. Des cordes d'eau tendues à la verticale du parvis se sont soudain abattues comme une herse devant l'église des franches montagnes où la noce s'était réfugiée. Les deux cloches, pourtant lancées à toute volée, n'avaient pu chasser l'orage. Il m'a fallu traverser cette grille liquide sous la cape de mon père pour ne pas gâcher ma toilette. Mon promis m'attendait dans son costume rutilant. Il pleuvait tant qu'on échangerait les consentements dans la nef et non en plein air comme le voulait l'usage. Là, face au pallium de l'archevêque, venu en personne marier son neveu à la fille de l'un de ses vassaux, je n'ai pas dit « oui ». Jamais fille d'ici n'avait osé pareil affront. Et sachant qu'un tel acte ne me serait pas pardonné, j'ai sorti le petit couteau que je tenais caché sous ma robe d'apparat, et prenant pour modèle Aude, la future sanctifiée, je me suis tranché l'oreille. M'adressant alors à l'archevêque, j'ai déclaré que je m'étais déjà offerte au Christ, mais que personne jusqu'ici n'avait voulu l'entendre, tant il est dur pour une fille d'être écoutée, même d'un père juste et aimant.
Thank you.
aux marches du palais, aux marches du palais, y a une tant belle fille, l'on l'a, y a une tant belle fille. Elle a tant d'amoureux, elle a tant d'amoureux, qu'elle ne sait lequel prendre, l'on l'a, qu'elle ne sait lequel prendre. La belle, si tu voulais, la belle, si tu voulais, nous dormirions ensemble, l'on l'a, nous dormirions ensemble. Dans un grand lit carré, dans un grand lit carré, orné de toiles blanches, l'on l'a, orné de toiles blanches. Vous pouvez me retrouver tous les mardis à 9h45 sur Jet FM ou en podcast. Laissez-moi vos impressions, vos commentaires, peut-être vos suggestions aussi, pourquoi pas, à propos de ma chronique, en m'écrivant à ladiseusedemots@gmail.com. LADYSEUSEDEMOTS, tout attaché, @gmail.com. À bientôt.
Les mots.